France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1914 à Shanghai, dans l'ancienne République de Chine où son père était consul, Lucien Baudard, qui fut autant écrivain qu'aventurier, a toujours été passionné par ce qui se passait en Chine et en Indochine, tant comme journaliste que comme romancier. Au cours d'un entretien, on demanda à Lucien Baudard, je cite, « Lequel de vos romans voudriez-vous qu'un jeune écrivain lise en premier ?»« La Duchesse », répondit-il. « C'est celui où il y a le plus d'inventions que j'ai situé en Indochine un siècle en arrière. Ce récit tourne autour de la Duchesse, qui est une femme indigène. Il y a la nature, la jungle, les Chinois, bref, tout le monde. » En écoutant cette émission, un livre des voix consacré à la Duchesse, vous comprendrez pourquoi.
C'est Arlette Daff qui nous présente le nouveau roman de Lucien Baudard, La Duchesse. En 1977, Lucien Baudard publiait un livre qui eut un très grand succès, La Vallée des Roses. Lucien Baudard est né en Chine en 1914. La Chine, il y retrouve toutes ses frayeurs d'enfant. Un enfant qui a vu des choses horribles, par exemple le supplice des 1000 couteaux. Un malheureux est déchiqueté, morceau par morceau, pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'il ne soit plus dans le village ou la ville qu'un squelette ambulant. Il y a les eunuques monstrueux de grosseur. Ces eunuques, on les ligote sur des radeaux qui dérivent quand ils ont fauté. Il y a les femmes aux pieds réduits à une tige sur laquelle elles chancellent. Les Chinois que les Mandchous obligent au port de la natte pour pouvoir les attraper plus facilement et leur couper la tête, pour un oui, pour un non. Les marchés vomissant des odeurs nauséabondes, des amours contre nature, comme toute la vie chinoise d'ailleurs pour Lucien Baudard, est contre nature. Une vie qui est une déformation de ce qui est simple, naturel, avec les arbres taillés et rabougris, les meubles biscornus, les pagodes avec leurs torsions, leurs floraisons exubérantes. Tout ce que je vous dis là, c'est l'arrière-plan de La Vallée des Roses, et c'est aussi l'arrière-plan des précédents romans de Lucien Baudard, Monsieur le Consul, prix Inter Alliés 1973, ou Le Fils du Consul, publié en 1975 chez Grasset. Et toutes ces horreurs sont portées chez Lucien Baudard par un grand style lyrique, quand il n'a pas la minutie du reportage. Ce style est comme un chant, un élément qui pénètre, qui vivifie, on pourrait dire un instinct, que contrarie, que casse dans son élan ce que Lucien Baudard a à nous raconter, cette vie chinoise, souvent horrible. La Vallée des Roses, c'était au départ la biographie de Cui, la dernière impératrice douairière de Chine, celle dont Claudel vit les obsèques en 1908. Cette impératrice, Lucien Baudard l'évoquait au moment de sa jeunesse, quand elle était encore une toute jeune fille dans le sérail, une toute jeune fille jurant de parvenir à enfanter un empereur avec la complicité du grand eunuque, ce qui n'était pas commode car l'empereur était homosexuel. Un empereur, c'est-à-dire un dieu siégeant dans le palais d'été, dont Claudel dit qu'il réalise assez bien, ce palais, l'image de ces empyrées d'azur et de cinabre où, sur les vieilles peintures, résident les sages. Puis, dans ce roman, c'était la guerre avec l'Occident, à la suite des persécutions contre les missionnaires. Guerre aussi économique, pour posséder les ports, pour posséder les matières premières, et qui s'achève par le sac du palais d'été. Lucien Baudard est un peu un de ces Chinois plus chinois que nature, mordant au plus épais d'une vie orientale qui lui a nourri l'imagination, qui a alimenté ses fantasmes, et à cet égard il y a tant de fables en Chine que tout paraît naturel. La Duchesse, le nouveau Lucien Baudard que vous allez entendre, c'est la vie de Niu, la fille du chef des Méo qui se marie avec un officier français en 1880, et qui va finir, après avoir été abandonnée, comme tenancière de bordel.
Conquête de l'Indochine, victoire, gloire. L'imagination et l'imagerie officielle camouflent la sordide histoire. Les gouverneurs généraux, les ministres en mission, les administrateurs civils, en casquettés, en médaillés, en galonnés, donnent aux rues toutes neuves des villes coloniales construites après la pacification les noms des héros tout frais, trépassés dans les rizières et les jungles. Le sergent Bobillot. Ce triomphalisme cachait le gâchis, une incapacité incroyable à comprendre, des pertes terrifiantes et l'ombre de la déroute. Avant tout, la conquête avait été une boucherie. D'abord, les belles troupes françaises, dans leurs atours, se sont enlisées dans la plèbe de l'Asie, masse misérable aux mines stupides, se sont perdues dans le domaine des arroyos tordus, dans le royaume des eaux croupissantes et saumâtres, sur lesquelles les villages sont posés comme des feuilles pourrissantes, terre de boue, de diguettes, de toutes sortes d'ondes sales. Pendant ce temps, en quelques palais se faisaient des négociations inlassables avec des mandarins au sourire rictus, ayant l'art des paroles doucereuses qui mènent au guet-apens, à la perte, à l'abîme. Mandarins fiefs et menteurs, abominant les barbares, les vouant aux mille supplices. Mandarins tête de mort, mandarins à boutons de jade, avec leurs prétoires, leurs parasols, leurs bourreaux et toutes les sagesses de la perfidie exterminatrice. Pour conclure les palabres des plénipotentiaires chamarrés avec les dignitaires barbichus, les troupes françaises sont tombées dans des pièges, ont été assaillies par des êtres hurlants, surgis du néant, aux costumes et aux armements diaboliques. En réponse, ce sont les sièges des cités indigènes aux énormes murailles de boue séchée, remparts semblables à des écorces de dragons. Quelques compagnies se lancent, poignées d'hommes hagards, à l'assaut de ces retranchements hérissés et solides, avec l'appui du feu de chaloupe appelé canonnière, embossé dans un delta de vases et de fleuves. Chaleur, courage. Horreur, ignorance, massacre de jaunes, cadavres de blancs. Le sang rougit l'eau déjà rougeâtre des rizières et des marécages. Têtes coupées, morts échoués, corps torturés, angoisse. Encore plus d'angoisse quand, plus tard, les régiments entrent comme des innocents dans la forêt sombre et inconnue. Les belles unités en tenue de drap, boutons astiqués et cols fermés, marchant là-dedans en superbe ordonnance, selon les règlements de campagne, selon les principes savants de la tactique et de la stratégie, elles escaladent les sentiers principaux des massifs comme si c'était des routes nationales ou tout au moins des chemins vicinaux, cela en plein calcaire, en pleine jungle. Tous ces galants officiers, tous ces soldats disciplinés sont prêts à l'attaque, à la charge au clairon, au feu de peloton, au feu de salve. Tous comptent s'appuyer sur les puissants tirs de l'artillerie ou les chefs-d'œuvre du génie. On a appelé ça les colonnes. Ça a crevé dans le noir des végétations, dans les apics blanchâtres, dans le chaos des pitons, dans les gorges des fleuves, loin de toute espérance. Avec la maladie comme première tueuse, les troufions ridiculement harnachés pourrissaient de toutes les fièvres, de tous les pus connus et inconnus, sans défense contre ces décompositions. Les médecins impuissants ne savaient pas la signification des symptômes apparus sur les corps gonflés ou squelettisés. Des soldats s'effondraient, on les traînait quelque temps sur des civières encombrantes et on les abandonnait. Ainsi, les colonnes jalonnaient de tombes fraîches les itinéraires offensifs préparés par les états-majors. Le soleil, l'humidité torride, l'ombre empestée, ces marches de semaines et de mois ne mènent à rien. Toujours l'immensité des jungles, des massifs, les fatigues, la faim. Soldats aveugles et qui, pourtant, sentent qu'ils sont suivis par des yeux invisibles qui les épient, qui les accompagnent, qui les conduisent au trépas. L'ennemi poursuivi qu'ils n'aperçoivent pas, qu'ils ne rejoignent pas, qu'ils n'attrapent pas, mais qui se révèle à eux par d'effroyables embuscades, traqueur traqué. Soudain, des masques atroces se détachent de la jungle, masques qui sont des visages. Ainsi surgissent des milliers de guerriers jaunes appareillés pour l'effroi, avec des armes suppliciantes, des dragons et des serpents brodés sur leurs robes. Guerriers qui, tapis sur les bords de la piste, attendent avec une patience de bête fauve les soldats français bien en ordre, luisant de ceinturons et de bidons, défilant à la queue leu-leu dans un étroit goulet. Tout à coup, les démons se ruent de partout pour la mise à mort du long cordon d'hommes empêtrés, l'anéantissant au fusil, au coupe-coupe, au couteau, encore à corps d'insectes fous. Ils sont bien braves, pourtant, les Français. Ils percent des ventres avec des baïonnettes, mais les ventres sont trop nombreux, les masques aussi, et cette vaillante troupe enfin submergée tombe pour crever, charogne en pièces. Les derniers agonisants entendent le rire des vainqueurs dans la cathédrale des arts. D'autrefois, les hordes jaunes sortent du néant, se dressent sur toutes les hauteurs, enfermant le détachement dans une trappe, un trou, un caveau, où il ne reste plus qu'à périr. Terribles ennemis dans ce qui semble le désert végétal, innombrables, doués d'ubiquité, faisant planer la menace partout, sans qu'on sache où elle est vraiment, allant même jusqu'à encercler les postes implantés au sommet d'une crête, avec un drapeau tricolore, sur un terrain dit conquis, alors qu'il ne l'est jamais. Les postes tombent presque toujours à cause des distances, des secours qui n'arrivent pas. Pauvres soldats abandonnés à la stupidité des généraux, ces chefs glorieux, respectés, couverts de cicatrices et de décorations, entourés d'étiquettes, ont la jugeote lente. Ils ne savent pas que cette guerre-là a ses lois. Ils ne veulent pas les reconnaître. Il leur a fallu du temps pour simplement s'apercevoir que dans la jungle, les unités ne peuvent se déployer noblement afin de livrer des batailles à la Napoléon. Ils ne comprennent rien. Ils ne conçoivent la forêt vierge, quand elle n'est pas trouée par d'antiques chemins, parfois dallés, que comme un bloc ou comme une muraille. Dérision, car la Sylve est une passoire pour ceux qui la connaissent. À côté des accès bien repérés par où cheminent les régiments des conquérants, un cortège de plusieurs kilomètres pour une troupe avec tout son barda, il en existe des centaines d'autres, des milliers d'autres, secrets, cachés, camouflés, indiscernables, servant aux tribus primitives et aux bêtes sauvages. C'est par là que s'infiltrent les ennemis passant en se jouant à travers l'impassable pour tendre leur guet-apens. Litanie des embuscades, imbécilité blanche dans cette interminable partie où seule compte l'intelligence des ruses, la divination, la cérébralité. L'imagination règne de tout. L'atrocité calculée étant une arme pour faire désespérer, pour démoraliser. Chez les Français, peu à peu, la peur, l'exacerbation, la démence. Tout cela baignant dans la cruauté, avec des supplices, des ingéniosités, des inventions ignominieuses, du raffiné. Par plaisir d'abord, par utilité ensuite, pour que les corps torturés des captifs blancs exposés en des mises en scène de cauchemars soient des épouvantails, des mannequins de l'horreur, affichant la promesse de ce qui arriverait aux survivants français si jamais ils étaient pris. D'ailleurs, tous ont entendu les hurlements de leurs camarades prisonniers tailladés vifs près d'eux sans qu'ils puissent rien faire pour les sauver. Tous ont vu ensuite sur des pieux comme à la parade les rangées de têtes bien reconnaissables de leurs compagnons disparus, têtes pourtant excisées de leurs traits avec sur les cavités des yeux des restes de paupières maintenues ouvertes par des bâtonnets. Tous ont pénétré, vainqueurs épouvantés ou furieux, dans des repères où, pour les accueillir, reposaient comme des coussins éventrés, comme des cornets de viande hachés, parfois installés dans des positions assises ou debout grâce à de minutieux ligotages et embrochages, ceux qui avaient été leurs frères d'armes. Terreur. Terreur encore pour les officiers et les soldats qui, après une petite ou une grande déroute, ont échappé à l'extermination et se sont enfouis dans la végétation. Intégrés dans la densité étouffante des lianes et des feuilles, ils ont entendu les jaunes les chercher sans les trouver. Ils ont écouté les voix et les pas de leurs débusqueurs, furetant, fouillant, essayant de les démêler des humus et des proliférations de la forêt. Les cheveux des rescapés blanchissaient en une nuit. Ils sortaient de là comme des vieillards. Tout concourait au monstrueux. Ces tortures, ces épuisements, ce mystère accablant où pullulaient des hommes qui n'étaient pas seulement maîtres des redoutables jeux à tuer, mais qui étaient pourvus, en plus de leur pratique ancestrale de la mort, de connaissances militaires modernes. Ils savaient faire parler la poudre et les balles. Ils étaient experts en manœuvres, en opérations combinées, en attaques et contre-attaques, réunissant l'arsenal d'antan et de maintenant. Aux fléchettes, aux hameçons de fer, aux épieux et aux pointes de bambou aiguisées, à tous ces engins primitifs qui, dissimulés dans les hautes herbes ou enfouis dans le sol, infligent des mutilations et des blessures vite gangrenées, s'ajoutaient les armes d'Europe et d'Amérique les plus modernes, vendues par les patriotes messieurs blancs de l'import-export. Ces distingués hommes d'affaires au col à manger de la tarte, dans leur innocence, cette hypocrisie qui est l'âme du business, ne vendaient qu'à des notables recommandables, offrant toute garantie. Ils ne voulaient pas savoir que leurs véritables clients étaient ces fantômes assassins qui se servaient de leurs munitions pour truffer de balles les excellents petits soldats français. Piou-piou, qui, par leur trépas, étaient en train de préparer au gros blanc une Indochine sur mesure où se repaîtraient d'honorables capitaux. Dans les deltas de plus en plus pacifiés, de grandes cités riches et paisibles adonnées au culte de la piastre, au progrès économique, à la bonne vie bien confortable, croissaient. Les trafiquants s'y transformaient en estimables commerçants ayant pignon sur rue, et n'ouvrant la bouche que pour parler de la sainteté de la colonisation et de la civilisation. Pauvre troupe assaignée au nom de cette civilisation et de cette colonisation, concept irréel pour elle, enterrée vivante dans leur enfer à être étripée, avec pour rochet le drapeau tricolore, les sonneries aux armes, les marques de respect, la bonne discipline, les cérémonies funéraires. La France éternelle servie par des soldats destinés à être des ordures pourrissantes, oubliées, ignorées. Dérision de ces troufions perdus dans la malédiction de la nature et des hommes. Ils mouraient pour la lointaine et muette douce France. Un mirage à des mois de bateau. La douce France indifférente à leur destin. Un combattant ne se devait-il pas de crever sans histoire? La France, qui, à cette époque, les utilisait abondamment dans la presse, au Parlement, au gouvernement, les prenant comme prétexte à des joutes politiques qui se moquaient bien de leurs sacrifices. Leur sang répandu, leurs tripes évidées, servaient d'argument aux royalistes, petites moustaches et morgues aristocratiques, pour imposer la monarchie aux républicains, barbus, ventrus, bons garçons, à l'éloquence fleurie, qui, eux, prônaient les éviscérages des expéditions coloniales. Parlement en folie, assaut de discours, feux et flammes des voix, éclats tonitruants, pupitres claquant comme des rafales, pas meurtrières, celles-là. Personne ne meurt au Palais Bourbon.
Lucien Bodard, cette duchesse, ce dernier roman qui vient de paraître de vous, est en quelque sorte la guerre de colonisation de l'Indochine, c'est-à-dire cette guerre qui s'est placée aux environs de... enfin dans les années
1880-1870. En réalité, ce n'est pas exactement ça. J'ai reculé dans le temps parce que beaucoup des figures, des personnages de ce roman, ce sont des figures qui ont existé, que j'ai vues. Ce livre, quoique prétendant décrire la guerre de conquête, est en grande partie un reflet de la guerre des colonisations auquel j'ai assisté comme grand reporter. Et les personnages que je décris sont des personnages que j'ai rencontrés, que j'ai vus, qui ont existé pour la plupart. Mais les histoires sont totalement inventées, mais les figures sont réelles. Je voulais un drame à l'état pur, un drame d'homme perdu, si vous voulez, au fond de la jungle, dans des contrées inconnues, dans des jungles inconnues, dans des montagnes inconnues.
Et dans des psychologies inconnues.
Et dans des psychologies inconnues, et qui se trouvent là, brusquement, face à eux-mêmes, face à l'horreur, face à la cruauté, face à un sort qui leur semblait terrible et désespéré. Et en même temps, avec cette espèce d'exaltation qu'entraîne le défi à la mort. Et pour cela, je ne voulais pas qu'il soit relié au reste de l'univers, qu'il y ait des moyens de communication radio, des avions, de tout ça. J'ai choisi qu'ils fussent complètement perdus. Pour cela, il ne fallait pas de technique moderne, j'ai donc reculé dans le temps. Évidemment, j'ai lu quelques ouvrages sur cette guerre de colonisation, 1880-1900, mais par certains aspects, elle ressemble, si vous voulez, aux aspects de la guerre de décolonisation. C'est quand même ce ne sont pas tout à fait les mêmes ennemis. Dans la guerre de 1890-1900, on avait surtout affaire à des Chinois, tandis que dans le second cas, on avait affaire à des Vietnamiens. Mais c'est quand même le même mystère de la jungle pressante, c'est quand même l'ennemi caché, c'est quand même la guerre des ruses, des stratagèmes, des embuscades brutales et soudaines.
Pour nos braves, au demeurant bon catholiques, se confessant et communiant, il y eut une floraison vénéneuse de vertiges meurtriers, un paroxysme fait de fureur, de vengeance, d'horreur devant l'horreur, sans compter la revanche de la peur. La trouille s'engouffrait dans le corps comme dans un abîme, une vague chaude et irrésistible de cruauté montant des tréfonds y répondait, sous la jante, faisant du bien à l'âme. Les Français n'accordaient pas de quartier, et cela ne leur paraissait que justice. Ils s'en vantaient orgueilleusement. Ils abattaient l'hydre des ignominies. Ils détruisaient pour le bonheur du monde l'Asie des ténèbres. Les officiers participaient, leurs lèvres bougeant un peu pour donner des ordres impitoyables, et les aumôniers des régiments, même les pieux missionnaires, approuvaient. Saintes exécutions. Le goût du sang devenait un réconfort, un délice, une maladie. Que de populations passées au fil de l'épée, que de bourgades incendiées avec leurs habitants, et sur le fond vert des jungles vertes, vert sombre, vert noir, vert de nuit, vert profond, ne restaient que des plaques calcinées et des détritus humains fumés. Parfois, où cela n'avait pas brûlé, des tas de corps, du sang, des tripes, la décomposition, les mouches, la chaleur, et là-dedans, des yeux encore ouverts qui chaviraient pour l'éternité. Femmes violées, éventrées, aussi bien les vieilles tannées que les jeunes toutes lisses, bébés et enfants transpercés, embrochés, l'odeur alentour, la forêt, le feulement des tigres. Ces actions, pour se donner bonne conscience, dans les endroits supposés mauvais et par conséquent méritant châtiment. Vaines supplications et dénégations des notables, leurs barbichettes dessinant les caractères du repentir, puis le silence, la résignation, tuerie en masse, simple.
Mais alors là, il y a une modification, parce que, si vous voulez, au début, je parle de la guerre des Français récente, de la guerre d'Indochine, au début, effectivement, il y avait des tortures physiques. Et une fois que le régime de Hồ Chí Minh était solide, enfin relativement bien en place, etc., ils ont transformé la torture physique par des essais de conversion morale. Les prisonniers français ou ceux de l'Empire français étaient menés dans les camps où ils devaient reconnaître qu'ils avaient commis le mal, qu'ils étaient des pécheurs, des fautifs, des criminels, et ils devaient se convertir au bien.
Oui.
Et le bien qui est la cause du peuple.
Mais dans ce roman, puisque c'est tout de même de ça qu'il s'agit, dans ce roman, vous avez introduit des personnages qui semblent être toujours des féodaux, c'est-à-dire il y a par exemple ce personnage qui s'appelle Chu, que l'on va assassiner, auquel on va couper la tête, il se promène en palanquin, il a une tente dorée, enfin, tout de même, en 40, ça n'existait plus, ça.
Non, mais alors là, ce sont mes souvenirs d'enfance. Donc, j'ai été un enfant qui a vécu complètement à la chinoise, avec ce qu'on appelle les amas, c'est-à-dire les nourrices, puis les bonnes d'enfants chinoises. Et alors, j'ai vécu avec elles. Elles m'ont emmené dans la rue, elles m'ont emmené à tous les spectacles. Quand j'étais un peu plus grand, j'allais à cheval, j'ai vécu avec les mafous, les palefreniers. Et tout cela, ma première langue là était le chinois. Et c'était l'époque des seigneurs de la guerre. Et alors, je voyais se défiler entre ces seigneurs de la guerre les intrigues, les batailles, les supplices, les têtes coupées. Et tout cela existait.
Dans une liesse populaire.
Oui, dans une liesse populaire. Il n'y a aucun doute que... Ou une indifférence, ça dépend des cas. Mais dans un certain nombre de cas, un beau supplice était apprécié.
Donc dans cette première partie du roman, c'est la guerre. Et dans la deuxième partie, c'est l'installation, en quelque sorte.
C'est l'installation totale.
L'installation avec tout ce que... Enfin, toute l'ordure que ça comporte sur le plan moral... parallèlement à l'ordure physique de la première partie, c'est-à-dire les tortures, le pourrissement dans la jungle, toute cette cruauté, en somme, et de la nature et des hommes.
Oui, moi je suis né dans un milieu proprement et purement colonialiste. Mon père a été consul en Chine très longtemps. À un moment donné, il a été consul à ce qu'on appelle Danfu, qu'on appelle maintenant Kunming, qui était relié par un chemin de fer à Hanoï. J'ai donc bien connu comme enfant également les Français d'Indochine, et ce qui les caractérisait à l'époque, c'était leur extraordinaire bonne conscience. Les saletés qu'ils commettaient, au fond, c'était pour eux de petites choses par rapport au bien qu'ils apportaient. Ils avaient l'impression, mais une impression extraordinaire, que vraiment, ils apportaient l'ordre, la paix, la prospérité, qu'ils apportaient le bonheur, que ces peuples étaient incapables de se gouverner par eux-mêmes. Je me souviens que, pendant la guerre de décolonisation, lorsque je suis arrivé à Saigon ou à Hanoï, en 1946, je suis tombé sur les vieux Français de là-bas, etc., les vieux durs à cuire, les types de l'apéritif, et tout ça, et ceux qui fumaient un peu l'opium. Et il me disait alors, oh là là, tout ça sert à rien, on manque d'énergie, qu'on coupe 12 têtes et tout sera fini. Et ils avaient pourtant vécu là-bas toute leur vie. Il y avait un manque de jugement, un manque de la compréhension de la marche des événements qui était quelque chose de fantastique.
Oui, je suppose que la conscience, la bonne conscience des Français devait être redoublée à cause de la construction de ce chemin de fer qui a été une épopée extraordinaire.
Ce chemin de fer a été une épopée extraordinaire. C'est un chemin de fer qui est parti de Hanoï, qui remontait la vallée du fleuve Rouge, et puis brusquement le fleuve Rouge devient impossible, devient un canyon, devient un gouffre, il fallait trouver une autre voie. On a trouvé une petite rivière inconnue, et il fallait franchir un escarpement de 1000 mètres dans des régions de calcaire, c'est-à-dire les régions les plus pourries. Là, les eaux sont claires, et le calcaire reflète le soleil. Ce sont des paysages absolument fantastiques. Et les parois sont lisses, à pic. Et il fallait accrocher le chemin de fer à cela. Et il y avait une fièvre terrible. Les hommes mouraient. Et alors j'ai trouvé, dans les archives, ou plutôt des livres publiés par la compagnie eux-mêmes, qui racontaient, comment dirais-je, le recrutement des coulis. Et comment pendant 10 ans, ils avaient essayé de recruter des coulis à travers toute la Chine. Et ils en recrutaient, et ils en envoyaient, et ils en ont recruté des dizaines et des dizaines de milliers dans tous les coins de la Chine. Et à chaque expédition, les hommes mouraient.
Ça a dû faire autant de victimes que le mur de la Chine.
Quand même pas. Le mur de la Chine, d'après la légende, a fait des millions de victimes. Là, on n'est qu'à quelques dizaines de milliers.
Dieudonné sait qu'il va sauver quantité d'hommes et de femmes d'un trépas odieux. Mais ce sera pour les recondamner lui-même d'une façon peut-être moins expéditive, mais certaine, avec en prime le temps de se voir mourir. Dieudonné est environné par l'horreur. Saleté de pirates, saleté de lignes de chemin de fer, Lao Kei, il s'en souvient. Il s'y est rendu pour la première fois 10 ans auparavant, quand c'était un trou tout neuf, tout juste surgi en pleine jungle, une petite cité en briques de la colonisation française. Elle avait succédé à la forteresse en bambou et en pisé, barbelée de têtes coupées, qui était le repère des pavillons noirs. Mauvais souvenir. Il y avait eu une sacrée trouille qu'il s'était efforcé d'oublier depuis lors. Maintenant, elle lui revient. C'est qu'il y est retourné souvent dans ce coin pourri, pour de petits trafics funéraires. Il a été l'entrepreneur des pompes funèbres des blancs importants qui rendaient l'âme sur la voie. Quant aux coulisses expirées, il ne s'en était pas occupé, il ne pouvait pas être au four et au moulin. Leurs corps disparaissaient dans la sauvagerie de la nature ou sous la dent des bêtes, jetés au hasard dans la jungle ou enfournés dans des fosses communes. Pourtant, il aurait fallu faire quelque chose pour ces morts-là, car lorsque les bougres et les bougresses crevaient trop, les survivants à moitié moribonds allaient se plaindre en délégation pestiférée au Tatois, le sous-préfet céleste de Kokyeou, bourgade chinoise jumelle de Laoké. Dieudonné était alors le porte-parole de la compagnie chargée de calmer le faux courroux du dignitaire en se prosternant devant lui avec des paroles fleuries et en lui graissant la patte. Grâce à lui, en quelque sorte, ça avait donc continué à périr en quantité sur la voie. Et voilà que le destin le reprend pour le faire encore plus directement pourvoyeur de futurs cadavres. Remords. Maudit chemin de fer. Dieudonné est bien renseigné sur ce rail qui dévore les vies. Il en connaît des histoires dégoûtantes sur son compte, surtout sur les chantiers abominables de la ligne, dans la vallée de la Namti, la vraie et la fausse, car il y en a en réalité 2 de ces Namti, et dans d'autres ravins ou des torrents terrifiants qui, plus que de l'eau, charrient les fièvres putrides et les épidémies dégoûtantes. C'est bien simple, là où la ligne essaie d'escalader le plateau du Yunnan, c'est l'abattoir. Les pauvres hères qui respirent encore un peu rassemblent leurs dernières forces pour s'enfuir vers la forêt anthropophage qui les avale dans sa gloutonnerie. Il en sera toujours ainsi, il en sera de même avec la main-d'œuvre que lui, Dieudonné, va extraire aux pirates. La mémoire de Dieudonné se précise. Autrefois, bardé de son casque colonial, il a été voir sur place, sur la Namti, l'hécatombe. Les cadavres des coulis, encore un peu enveloppés de chair, étaient précipités dans l'immensité mauvaise des gouffres avec hâte et angoisse. Il ne fallait pas que les morts se décomposent sur place, quelques heures y suffisaient, et ainsi tuent les vivants en les empoisonnant de leurs germes et de leurs fantômes funestes. Si c'était un Européen de petit rang qui succombait, on l'enterrait avec ou sans bière là où il avait rendu l'âme. Le décorum était réduit au minimum, recueillement factice des compagnons, absoute marmonnée par un ami croyant à défaut de prêtre, une croix blanche, un discours bref de quelques sous-chefs perlant lui-même de malaria. On ne ramenait à Laoké que les restes respectés des grands patrons. Et un curé officier avait alors une vraie messe. L'infanterie coloniale rendait les honneurs aux défunts, toujours gradés dans l'ordre de la Légion d'honneur. Pompe de l'éloquence, Dieudonné était grave comme il savait l'être, digne, triste, recueilli, le maître de cérémonie. Dans ces cas, il s'abstenait de surveiller du coin de l'œil les à-côtés cocasses de l'office, comme il l'aurait fait à Hanoï. Car à cette époque lointaine, même dans la capitale bien pomponnée du Tonkin, belles avenues, bungalows et palais, la fréquente cérémonie du cimetière était plus qu'un deuil, plus qu'une corvée, presque une partie de plaisir, un rassemblement de bons vivants. Certes, il y avait ce qu'il fallait, des uniformes, des décorations, des poignées de main congratulatoires, même des yeux rougis et quantité de couronnes de fleurs en perles à cause du climat. Mais ensuite, l'apéro, le gueuleton, des mots plaisants, des anecdotes bien troussées, voire grivoises, rendant hommage au bon luron qu'avait été le défunt. Ah, les anciens savaient payer l'ardoise de la colonie, où Dieu prélevait bougrement sa part. Les rescapés des temps passés se comptaient, chacun se disant « Moi, je suis toujours fidèle au poste, bon pied bon œil, avec mon ventre et mon dépôt en banque qui grossissent. » Gaieté mâle, gaieté gauloise, gaieté des pionniers, forfanterie de pépères héroïques. Mais là au quai, Dieudonné était un spectre. Toute l'assistance n'était que spectre. À la hoquet, c'était le cauchemar. La mort exagérait. Elle était la compagne, la promise, l'épouse du train fantôme. Travailler pour lui, c'était célébrer ses noces avec la Camarde. voix de la malédiction. Des centaines de blancs y étaient tombés les uns après les autres, mangés par la tumeur de l'âme, avant d'être mangés par la putréfaction des corps. Car ces Européens étaient arrivés dans l'enthousiasme, dans le défi, pour la gloire ou la fortune. Des ingénieurs polytechniciens gonflés de la certitude que là, parmi les éléments déments, il serait loisible à leur circonvolution cérébrale de se livrer à toutes les gymnastiques croyables et incroyables pour surmonter, pour inventer, pour vaincre, pour faire des chefs-d'œuvre, pour tricoter de la dentelle de fer. Et puis les autres, les gros entrepreneurs jouant leur santé et même leur vie contre des sous, des masses de sous à faire. Enfin, les vrais brutes que sont les contremaîtres, ne connaissant que leur poing et l'alcool, parvenus là parce que, brûlés partout ailleurs, se conduisant comme des geôliers du bagne. Peu à peu, les échos de ce mouroir, sans autre tueur que l'éternel écrasant l'immobile paysage tropical, se répandent partout. L'embauchage des Européens devient à peu près impossible malgré le miroitement des conditions. Même les plus fous des X et les ruffians les plus racornis ne veulent plus aller dans cette morgue. Alors, si pareilles abominations accablent les Blancs, on peut imaginer le sort réservé aux coulis et à leurs caporaux jaunes. Combien sont devenus carcasses ? 50 000, peut-être plus. Pertes sèches pour la compagnie, et quels ennuis. Les ouvriers s'obstinent à succomber malgré les soins dont on les entoure, jusqu'à leur distribuer des cachets de quinine et à leur acheter de vieilles guitounes par les déchirures desquelles, il est vrai, s'engouffrent les trombes et les miasmes de la mousson. Quelle tête de bois ces gueux qui s'abandonnent au génie de la mort sans savoir leur résister, malgré des procédés civilisateurs basés sur la persuasion, gueulement, coup sur la tronche, exhibition de revolver. Rien à faire. Les faces placides et les ventres rendent la vie en coulées excrémentielles. Aucune reconnaissance de la part de ces jaunes qui désertent le travail pour les néants de l'au-delà. Ils meurent, on dirait qu'ils préfèrent mourir. De la même manière, les bêtes sont ingrates. Pas les bêtes sauvages, tigres et cobras qui alentour pullulent, mais les chevaux. Car il en faut 7 à 8 000 de ces chevaux chinois, petits, paisibles, futés, ayant l'air de tout comprendre, capables, sous les lourdes charges, de grimper, de descendre les pires massifs en suivant des pistes à peine tracées. Ils déambulent 50 kilomètres par jour pépèrement afin d'apporter, depuis le fleuve rouge, le riz aux survivants et aussi les explosifs, du ciment, toutes sortes d'équipements semblables à des machines de guerre. Il faut dire que faire progresser la voie dans cette zone-là, c'est exactement comme creuser une galerie de mine ou une tranchée de champ de bataille. Or, ces animaux apparemment increvables, ils en crèvent encore plus que des hommes. Stupidement, imprévisiblement, ils s'abattent, font gigoter leurs pattes comme un tourniquet, hennissent un peu et s'apaisent en fermant leurs grands yeux glauques. Charogne qui ne dure pas longtemps. À peine poussé leur dernier soupir et craché leur ultime bave, des vautours et des colonnes de fourmis attaquent l'état de bidoches renversées, gisant en succession sur le chemin, et en font un tel banquet qu'en quelques minutes, il ne reste plus que des os laissés sur place. Gros os qui ressurgissent un peu partout comme une récolte funèbre. Tout est ossuaire le long du chemin de fer.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 29 octobre 1979.